Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, on peut se poser la question sur Medjugorje, peut-être. Ça fait déjà 4 ans que l'émission dure. On peut se poser cette question. Que se passe-t-il à Medjugorje? Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, dans l'ancienne Yougoslavie, où la Vierge apparaîtrait depuis le 24 juin, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, en 1981. Ça fait, dit-on, trop longtemps pour que ce soit authentique, disent certaines personnes. Pourtant, il y a eu des apparitions plus longues que ça, il y a quelques siècles, en France. C'est aujourd'hui la fête de la nativité de la Vierge Marie, c'est-à-dire son anniversaire de naissance, si vous voulez être plus clair, plus simple. Oui, c'est son anniversaire de naissance, de sa fête, comme on dit. Et nous savons tous, j'imagine, la place que Dieu a donnée à Marie dans l'ensemble de la création. Elle occupe un rôle extrêmement important au point que nous fêtons le 2000e anniversaire de la naissance de son fils dans quelques mois. La Terre entière va célébrer l'entrée dans le 3e millénaire sans peut-être se rendre compte suffisamment que c'est une célébration qui entoure le fils de Marie, Jésus, 2000 ans après sa naissance. Nous croyons que l'action de Marie se poursuit dans l'Église. Ça, nous en sommes presque tous convaincus, je l'espère. Et que nous en sommes d'autant plus convaincus le jour de l'anniversaire de sa naissance, quand on réfléchit un peu. Il suffit de se souvenir que dans l'Ancien Testament, dans la Bible des Juifs, on parle de Marie sous forme de prophétie. On annonce sa venue, de son destin exceptionnel. Par exemple, dans le livre de la Genèse, déjà, il y a un sauveur qui est annoncé, puis il est fait allusion à la mère de ce sauveur. Déjà dans la Genèse, c'est le premier livre de la Bible qui a été écrit au moins en, on calcule, 800 à 900 ans avant Jésus-Christ, et peut-être davantage. Et des siècles plus tard, il y a le prophète Isaïe, très connu Isaïe, je vous ai déjà parlé de lui. Lui, il se situe au-delà d'une situation historique de son temps. Puis il parle de la Vierge Marie qui va mettre un enfant royal au monde. Il y a un autre prophète moins connu, Michée, qui dit que va venir le jour où à Bethléem, celle qui doit enfanter enfantera à Bethléem. Ce que nous savons de plus précis sur la naissance de Marie, puisque c'est ça, l'anniversaire de sa naissance, je vous le répète, ça nous vient de sources qui vous surprendront peut-être, certains d'entre vous, de sources qui sont en dehors de la Bible. Comment ça? C'est parce qu'il y a des textes que l'on appelle apocryphes, qui ne sont pas contenus dans la Bible. Et selon ces traditions, bien, les parents de Marie s'appelaient Anne et Joachim, comme vous savez, Sainte-Anne, Saint-Joachim, qui sont fêtés particulièrement ici au Québec, à Sainte-Anne-de-Beaupré, le 26 juillet, en très grande pompe. Des milliers de gens se rendent un peu passé Québec, à Sainte-Anne-de-Beaupré, dans cette magnifique basilique que les rédemptories sont construites à la gloire des parents, particulièrement de la mère de Marie. Ses parents étaient justes, des gens, dit-on, qui étaient fidèles à Dieu, qui étaient des bons juifs observateurs de la loi juive. Mais sa mère, la grand-mère de Jésus, Anne, ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle était stérile, comme on dit. Et ça, dans le peuple juif, ça constituait comme un grand malheur, un opprobre. Alors, ce couple admirable priait beaucoup, et un jour, un ange a annoncé la venue d'une fille promise à un destin absolument exceptionnel. Et ce cas s'est produit pour d'autres femmes, d'ailleurs, dans l'histoire sainte. Hein? L'histoire sainte, l'histoire qu'on raconte dans la Bible. Hein? Et puis, c'est un sens symbolique. Ça signifie que Dieu est intervenu directement on peut dire, dans le processus de la génération, de l'enfantement. Et donc, que quelque chose de surnaturel va être lié au destin de cet enfant qui va naître, Jésus et Marie. Cela sera plus particulièrement vrai de la petite fille que ses parents ont nommée, donc Marie. Myriam aussi, c'est le même nom. Saint Matthieu, dans son évangile, présente sa généalogie, vous savez, les ancêtres du Christ. Cette longue liste, qui est un peu ennuyeuse parfois quand on l'entend, quand on est jeune, c'est un symbole de l'humanité entière. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est un symbole de l'humanité entière. Ça fait penser aussi à des tas de maillons d'une chaîne, alors des maillons plus ou moins brillants, parce que parmi les ancêtres, il n'y a pas toujours des gens parfaits, loin de là. Il y en a qui sont plutôt ternes, plutôt rouillés, des maillons de la chaîne. C'est une chaîne, d'ailleurs, qui évoque la captivité. Puis au bout de la chaîne, ben, il y a la liberté, puis c'est Jésus-Christ, la liberté, oui. Il est la liberté. Quand on adhère à lui, on est libre. Ou encore, c'est comme une plante qui a monté lentement, laborieusement, puis dont l'aboutissement est le fruit mûr de l'humanité, puis c'est le Christ. Et l'on peut dire que Marie, bien, elle en est la fleur. Alors la fête de Marie, son anniversaire de naissance aujourd'hui, c'est ancien, cette fête-là. Elle a d'abord été célébrée en Orient, puis elle est attestée à Rome. Déjà, on en a des preuves au 7e siècle, mais il y a tellement de documents qui se sont perdus, dans des guerres, qu'il y avait probablement des documents plus anciens. Or, on dit donc que Marie apparaît depuis 1981 à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, près de Mostar, où des dizaines de millions de gens se sont rendus, à peu près de toutes les parties du monde. On y voit des gens de toutes les langues, dans un tout petit village, Medjugorje. Les événements de Medjugorje, ça commence donc le 24 juin 1981, à la fête de Saint-Jean-Baptiste. C'est important. Saint-Jean-Baptiste annonce Jésus, son cousin. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie, quand elle vient? Elle annonce l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de son Fils, la prière. Elle dit des choses sublimes. Je vous en lirai tout à l'heure. Ce jour-là, le 24 juin 1981, il y a 6 jeunes qui voient la Vierge Marie. Comment peut-on être sûr? Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Pour 2 d'entre eux, ce sera la seule apparition. Bon. Le lendemain, le 25, le groupe actuel des voyants se constitue. Ceux qu'on connaît comme les voyants. Mirjana Dragicevic, 16 ans. Maria Pavlovic, 16 ans aussi. Ivanka Ivankovic, 15 ans. Ivan Dragicevic, 15 ans encore. Donc, 2 16 ans, 2 15 ans, dont un garçon. Vika Ivankovic, 17 ans, celle-là, et le petit Yakov Kolo, 10 ans. Évidemment que depuis ce temps-là, ces gens-là ont grandi. Ça fait déjà près de 20 ans. Plusieurs sont mariés, ont des enfants. Et 16 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, 4 continents, ça fait pas 20 ans encore, 4 continents, ou 4 continuent à bénéficier d'une apparition quotidienne vers 18h, 18h40 en fait. Et Mirjana et Ivanka ont en effet cessé de voir la Vierge aussi régulièrement depuis qu'elles ont reçu les 10 secrets que la Gospa leur a confiés individuellement au sujet du destin du monde. C'est le 25 décembre 1982, soit 1 an et demi seulement après le début des apparitions, que Mirjana a reçu ce qu'on appelle le 10e secret. Ces secrets, on ne sait pas ce que c'est. On a essayé de les arracher même aux plus jeunes, on n'a jamais été capable. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que ce n'est rien de terrible. Qu'au contraire, la Vierge est à apporter de bonnes nouvelles. D'ailleurs, elle est toujours interpellante dans le bon sens. Je vous lis l'un de ses derniers messages qu'elle aurait confié le 25 mai 1999. Le 25 mai 1999, écoutez bien ce qu'elle dit. À mon avis, c'est sublime. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à vous convertir et à croire plus fermement en Dieu. Elle les appelle toujours petits-enfants ou chers-enfants. Ça n'est pas quétaine, c'est tendre, c'est émouvant même. Petits-enfants, vous cherchez la paix et vous priez de différentes manières, mais vous n'avez pas encore donné votre cœur à Dieu afin qu'il le remplisse de son amour. Avez-vous compris cette belle phrase? Vous cherchez la paix et vous priez de différentes manières, mais vous n'avez pas encore donné votre cœur à Dieu afin qu'il le remplisse de son amour. Voilà, c'est pour cela que je suis avec vous, pour que je vous enseigne et vous rapproche de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'elle répète et qu'elle revient comme une mère avec son enfant qui lui redit les mêmes choses. C'est ce qui fait qu'un enfant est élevé. Et elle termine en disant, si vous aimez Dieu par-dessus tout, il sera facile pour vous de prier et de lui ouvrir votre cœur. Si vous aimez Dieu par-dessus tout, il sera facile pour vous de prier et de lui ouvrir votre cœur. La Vierge a promis de se montrer comme ça aux enfants à différents moments. Et elle a promis de laisser un signe. Mais tout ça me laisse, pour moi, secondaire. Ce qui compte, c'est la qualité du message. Et c'est, comme le dit si bien l'abbé René Laurentin, que je connais bien, c'est le plus grand succès médiatique de tous les temps, dans un sens. Quand on dit qu'il y a peut-être 30 millions de gens qui sont allés à Medjugorje, mais on dit que c'est répétitif, que c'est banal, que c'est naïf chez des gens qui se croient grands et intelligents, et je les comprends, souvent ils ont cette réaction, et on peut avoir cette réaction, je ne blâme pas ces gens-là. Mais est-ce que l'éducation, ça se fait pas par la répétition? Est-ce que ce que fait Marie à Medjugorje, eh bien, elle éduque ses enfants, alors elle doit répéter ses reproches des gens, peut-être un peu trop, à cheval sur leur intelligence. Mais la Vierge les a entendus elle-même. D'ailleurs, 2 ans après le début des apparitions, le 26 décembre 1983, elle dit à Yelena, une voyante du cœur, c'est une autre voyance, il ne faut pas dire « Notre-Dame ne fait que répéter ». Non, non, priez. Je ne puis vous dire autre chose. Et c'est vrai que tous ces messages s'acharnent sur la prière. Alors Marie vient donc prêcher quoi? L'urgence de retrouver le Créateur. Il est le principe Dieu. Il est le terme Dieu. L'homme doit tout à Dieu, c'est sa condition même. Et saint Paul disait, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Il dit ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17. Il importe que notre monde retrouve cette vérité, car Dieu est essentiel à notre existence. C'est ce que nous rappelle Marie à Medjugorje. Il est plus intime, Dieu, à nous-mêmes que nous ne sommes, que nous ne le sommes nous-mêmes, puisqu'il nous a formés. C'est lui qui nous a fait. Et le 26 juin, Marie va confirmer, je suis la bienheureuse Vierge Marie, parce que les enfants n'étaient pas tout à fait sûrs en 81. Et plus tard, le 26 octobre, là, de la première année, elle va dire, je suis la reine de la paix. Quel beau titre. Et nous devrions bien l'invoquer. Alors qu'au Timor oriental, il se passe des choses tellement épouvantables de la part des musulmans de l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, à l'égard de cette petite île catholique où déjà près d'un quart de million sont morts de façon tragique depuis quelques années, depuis la prise de possession outrageuse de ce pays. Il faut apprendre donc à pardonner aux Indonésiens et faire régner la paix dans nos cœurs. Peut-être avez-vous déjà lu le livre de l'abbé René Laurentin, paru il y a près de 20 ans, « La Vierge apparaît-elle à Medjugorje ?» Il avait écrit ça avec le père Ljudevit Rupčić, théologien croate renommé. C'est que ce théologien croate a été un des premiers à endosser Medjugorje. Pourtant, il enseignait la théologie à Bâle, en Suisse, là où était Hans-Urs von Balthasar, le très grand théologien. Et lorsqu'il a entendu parler des apparitions de Medjugorje, il a pensé que c'était un phénomène monté par les communistes à l'époque. Il est donc venu à Medjugorje pour leur dire « Ne vous occupez pas de ça, il n'y a rien à Medjugorje ». Mais au bout d'un mois, après avoir éprouvé toutes les choses à Medjugorje, les phénomènes, les voyants, les témoignages, les fruits aussi, il a changé d'opinion. Il a alors écrit un livre sur ces événements, et c'était le premier livre sur Medjugorje. Mais après cela, l'abbé Laurentin est venu. Et avec lui, il a travaillé, ils ont écrit ensemble ce premier livre, « La Vierge apparaît-elle à Medjugorje », qui m'a été transmis par l'éditeur à l'époque. « C'était, dit le père Rupčić, c'était l'un des plus grands arguments pour l'authenticité des apparitions. Car le père Laurentin demeure un très grand mariologue, connu dans le monde entier. Il faut savoir qu'au début des apparitions, Monseigneur Dzanić, l'évêque de Mostar, l'autorité ecclésiastique du lieu, était lui-même favorable à Medjugorje. Les communistes l'ont convoqué à Sarajevo et lui ont dit « Nous vous mettrons en prison si vous défendez Medjugorje ». Mais après cela, ce pauvre évêque devait aller contre Medjugorje. Est-ce qu'il a eu peur ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est une triste histoire. Mais le Saint-Esprit a opéré son action dans les fidèles et par la grâce, eh bien, ils ont accepté. Puis compris le message de la Vierge, semble-t-il bien. Il a donc accepté ce message, et lui qui n'est pas un bigot, qui est plutôt un théologien, comme il dit, plutôt libéral et rationaliste, comment se faisait-il qu'il arrivait à croire à ça? C'est qu'il avait vu ce que j'ai pu voir sur un film qu'a tourné M. François Bray, un ami de l'abbé René Laurentin, qui m'a été présenté. Car quand j'ai reçu le livre, j'ai décidé d'aller faire à Paris une interview avec l'abbé Laurentin, en compagnie de Marcel Brisebois, qui lui a posé d'excellentes questions. L'abbé Brisebois était plutôt contre, mais nous avons été convaincus. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu de François Bray, le cinéaste, père de 9 enfants, dont une carmélite, qui avait tourné un film intitulé « Et si c'était vrai ?» Il avait tourné une vidéo, si vous voulez, à Medjugorje de façon secrète sous le régime communiste, ayant utilisé une espèce d'autobus pour transporter tous ses enfants et sa femme, cachant très bien sa caméra. Mais il a enregistré les voyants au moment où il voyait la Vierge. Quand j'ai vu ce document que François Bray m'avait remis à la gare de Tours alors que je passais en train, je revenais de Bretagne d'une retraite dans un monastère de Trappistes et je l'ai averti par téléphone que je serais à la gare 2 minutes et je sortirais du train pour prendre la cassette. Et ainsi j'ai apporté la cassette qui a été présentée au tout début des apparitions à Radio-Canada, à la télévision, de même que l'entrevue que j'avais faite à Rencontre avec l'abbé René Laurentin, avec des illustrations de ces voyants. Qu'est-ce qu'il y avait, ces voyants? Mais ils étaient en rang. Et ils priaient. Notre Père. Et tout à coup, leurs yeux se levaient ensemble, simultanément à la fraction de seconde. Et ils tombaient à genoux. Leurs regards étaient pointés dans la même direction de façon évidente. Et ensemble, ils priaient avec la Vierge. C'était étonnant. J'ai revu et revu. Vous savez, quand on est réalisateur, on peut revoir à volonté des images. On les recommence, on les analyse. Et j'étais bouleversé, touché par la qualité du regard de ces enfants dont je vous ai donné les âges tout à l'heure. Mais vous me demanderez pourquoi la répétition? Pourquoi ces pater, ces ave? Le credo aussi que la Vierge leur a demandé de réciter, elle disait « Accomplissez humblement votre devoir d'homme et de chrétien pour vous rendre digne du ciel. » Elle leur dit aussi « Je désire être avec vous pour vous convertir et réconcilier le monde entier. » Mais pourquoi la répétition? Ben, l'abbé Laurentin a accompli un travail de titan en recherche et en rédaction sur Medjugorje. Il propose une comparaison qui est très intelligente, à mon avis, dans l'ordre humain, pour répondre aux critiques de banalité et de répétitivité qu'on a accolées au message. Supposons, dit-il, qu'un psychologue, soucieux d'étudier la relation mère-enfant, prenne la peine d'enregistrer tout ce qu'une mère ordinaire le dit à son enfant pendant les 3 ou 4 premières années de sa vie. Les enregistrements, qu'est-ce qu'il y aurait sur les enregistrements? Ça ferait des milliers d'heures d'abord. Puis leur transcription, vous savez, quand on écrit tout ça, ça ferait des dizaines de milliers de pages. C'est long. Ce que dit une mère à son enfant en 3-4 ans. Puis depuis les premières onomatopées, quand on dit boublablabibi, un beau bébé, là, de la mère et de l'enfant, jusqu'au premier balbutiement et dialogue, ça en prend des pages. Puis en lisant ces notations élémentaires, l'abbé Laurentin fait remarquer que les sages et les gens doctes ou savants, ou qui se croient-elles, pourrait dire, bah, tout cela est débile, c'est insignifiant, c'est répétitif, c'est sans intérêt. Et pourtant, fait remarquer l'abbé Laurentin, à défaut ce dialogue quotidien banal, mais le bébé ne deviendrait jamais un homme. Qu'est-ce que fait l'Église, notre mère, en nous invitant à assister à la messe si elle ne fait que répéter les évangiles année après année? Actuellement, c'est sur un cycle de 3 ans. Nous entendons les mêmes textes. Les textes de la messe, de ses offrandes, du pain et du vin, sont souvent les mêmes. Canon numéro 2, ou la prière eucharistique numéro 2, si vous préférez. Mais c'est d'une richesse et d'une beauté si vous pénétrez le sens des mots, et vous apprenez à prier et à vous offrir. La vie change. Nous devenons des hommes et des femmes debout, parce que l'Église, comme une maman, nous répète constamment les mêmes choses. Toujours à la façon d'une mère, il y a un domaine que Marie aborde de façon constante et avec grande ferveur, c'est celui de l'amour. D'abord, elle exprime le sien. « Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez. » C'est ce qu'elle dit, moins d'un an après le début des apparitions. Et en 85, elle dit « Je vous aime tous de la même manière ». C'est vrai qu'elle aime tous ses enfants de la même manière. Elle dit la même année, le mois suivant, au mois de novembre, « Moi, votre mère, je vous aime. Je ne me lasse jamais. Je vous appelle même si vous vous êtes éloigné de mon cœur. Je vous appelle même si vous vous êtes éloigné de mon cœur. » Puis elle cherche à répandre ce feu. « Je veux graver dans chaque cœur, le signe de l'amour. » Pas seulement une douce communion des cœurs, un peu niaise. Non, pas simplement ça. Ça va jusqu'à l'amour sacrifice, un amour actif. Elle dit, « Je vous invite à un plus grand sacrifice, c'est celui de l'amour. » Car aimer, c'est se sacrifier au fond. Pensons-y 2 secondes. On ne peut pas aimer sans se sacrifier. Sans amour, dit la Vierge, vous ne pouvez transmettre aux autres votre expérience. Est-ce qu'elle est pleine de bon sens, la Vierge? Ce qu'elle dit des choses sensées, la Vierge. Ce qu'elle dit des choses riches, magnifiques. En l'honneur de l'anniversaire de naissance de la très sainte Vierge, aujourd'hui, la nativité de Marie, il est question de Medjugorje, les apparitions qui auraient lieu, je dis bien qui auraient lieu, car ce n'est pas définitif, l'Église n'a pas sanctionné, et même quand l'Église sanctionne de façon définitive, nous ne sommes pas obligés d'y croire. Ce n'est jamais un dogme, ni Fatima, ni Lourdes. Vous savez ça probablement, j'espère. Bon, moi, je penche du côté de Medjugorje, je ne m'en cache pas. Et je vous lis encore un message de la Vierge en 1994, le 25 septembre. C'est très beau, sur la prière, le sens de la prière. Chers enfants, je me réjouis avec vous et je vous invite à la prière. Petits enfants, priez à mon intention. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'elle a besoin de prière pour se sanctifier? Pas du tout. Priez à mon intention, car elle a une intention. Elle veut qu'on lui offre comme des bouquets de prières qui puissent se transformer en action active, je dirais, de l'Esprit-Saint au cœur des fidèles, de tous ses enfants. Car elle dit, « Vos prières me sont nécessaires. » À travers elle, je désire vous rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos prières me sont nécessaires, car à travers elle, je désire vous rapprocher de Dieu. Parce que quand on prie, la Vierge nous assiste. L'Esprit Saint d'abord, évidemment. Et la Vierge, notre Mère aussi. Et elle désire nous rapprocher de Dieu qui est notre seul et grand et immense et infini bonheur. Elle le dit bien tout de suite après, elle dit, il est votre salut. En d'autres termes, il est votre libération, il est votre joie, il est tout. Et elle ajoute encore, Dieu m'envoie pour vous aider et pour vous mener au paradis qui est votre but. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Mais on peut se demander que pense l'Église de ces apparitions. Alors que les choses soient claires, c'est pas péché que de se rendre là-bas en pèlerinage, d'abord. Même s'il y a des gens qui prétendent le contraire. On peut dire qu'aujourd'hui, la position de l'Église est ouverte. Cela veut dire que son jugement définitif n'a pas encore été prononcé. Le dossier est toujours à l'étude à Rome. En attendant la publication de son jugement officiel, qui va émaner du Saint-Siège, comme on dit, comme on appelle ça, du Vatican, si vous voulez, et non du seul évêque du lieu de Mostar, qu'on appelle l'ordinaire du lieu, l'évêque de Mostar, a-t-on le droit de se rendre en pèlerinage à Medjugorje sans désobéir? Bien, non seulement les visites y sont autorisées par l'Église, mais le Vatican a fait savoir par la voix de son porte-parole, Joachim Navarro Valls, un laïc, le 21 août 1996, que l'accompagnement des prêtres pour un groupe s'est recommandé pour assister les fidèles pendant leur pèlerinage vers ce sanctuaire, où il y a plus de confessions en une journée qu'il y en a probablement dans tout le Québec en un mois. Rome demande seulement que ces pèlerinages ne soient pas organisés officiellement par un évêque ou au nom de l'Église, tant que son jugement n'a pas été rendu. Et ce serait donc anticiper la reconnaissance officielle, comme on dit canonique, d'événements religieux que l'Église examine encore. Bon. Ajoutons quelque chose. Tôt ou tard, l'Église va se prononcer pour la reconnaissance officielle des apparitions à Medjugorje, comme elle s'est prononcée en faveur de Lourdes, de Fatima, puis d'autres endroits. Pas si nombreux, quand même. Il demeure que ce serait pas hérétique pour un catholique de continuer à douter ou à dire que ce n'est pas vrai. Non, c'est pas hérétique. Croire aux apparitions n'est pas une obligation pour le chrétien, je tiens à vous le dire. Bon, moi j'y crois. Pas obligé d'y croire. On est libre. C'est un surcroît. C'est une aide et une grâce pour tenir dans la foi. Quand je dis que j'y crois, je suis prêt à accepter que ce soit pas vrai. Si on décide que c'est faux, je m'inclinerai. Je n'en parlerai plus. Mais une grâce telle que pour beaucoup, croyants ou non, elle équivaut à une véritable renaissance, cette grâce de Medjugorje. Monseigneur Franik, en 1984, l'évêque de Split, là-bas, a déclaré en 3 ans, ses apparitions ont fait plus pour la piété du peuple yougoslave que notre pastoral d'évêque en 40 ans. J'ai une filleule qui est venue à l'église, la fille de l'ancien président suisse à la fin des années 50. Son mari m'en voulait, il était président de la Swiss Bank Corporation au Canada. Il est allé avec elle à Medjugorje il y a quelques années, il s'est converti. Il est devenu catholique à son tour après tant d'années. Quant à Jean-Paul II, sa position personnelle sur la question ne fait pas de doute. Écoutez bien ce que Jean-Paul II dit. « Si je n'étais pas le pape, je serais déjà à Medjugorje en train de confesser. » C'est ce qu'il a dit en privé à l'une des voyantes, Miriana Soldo. Il a déclaré aussi au père Jozo Zofko, curé de Medjugorje, au début des apparitions, ce curé qui a déjà été emprisonné 18 mois par les communistes en tant que protecteur des voyants au début, hein. Il venait, le pape et lui, de concélébrer la messe dans la chapelle privée du pape le 20 juillet 1992. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au curé de Medjugorje, « Prenez soin de Medjugorje, mon père. Persévérez. Courage. Je suis avec vous. Défendez. Suivez Medjugorje. » De nombreux évêques ont à leur tour témoigné de Medjugorje. Pensons à Mgr Angelo Kim, président de la Conférence épiscopale de Corée, où il y a beaucoup de catholiques en Corée, beaucoup plus qu'on pense, je vous en ai parlé, hein? Et je vous en parlerai dans quelques jours, en parlant du premier martyr de Corée, Saint-André Kim. Mais cet évêque rapportait dans un périodique de son pays, le Journal catholique, ça s'appelle comme ça, le Journal catholique, du 11 novembre 1990, une conversation qui avait eu lieu au cours d'un déjeuner avec le pape pendant un synode romain. Il a dit au pape Saint-Père, c'est grâce à vous que la Pologne a pu se libérer du communisme. Et Jean-Paul II a répondu à Mgr Kim, non, ce n'est pas grâce à moi. C'est l'œuvre de la Vierge, comme elle l'a dit à Fatima et à Medjugorje. Curieux, hein? Je vous laisse sur les avis du pape. Et je reviens à ce qu'on dit quand on parle des messages de la Vierge. Un auteur français, René Lejeune, il parle de la pédagogie de Marie, dont je vous ai glissé un mot tout à l'heure. Notre-Dame, dit-il, parle aux enfants un langage simple. Un langage immédiatement compréhensible et assimilable. Assimilable. Il ajoute, réduite à une simplicité cristalline, les paroles de Marie pénètrent droit au cœur des voyants. Ils sont ainsi accessibles à tous, primaires et universitaires, enfants et adultes, dans un monde d'images au vocabulaire appauvri. C'est très vrai. Selon le même auteur, le dernier reproche que l'on puisse faire au message de Medjugorje, c'est celui de leur simplicité puis de leur nature répétitive. Or, ces caractéristiques en font justement l'incomparable valeur. Je vous lis un autre message de 1994, 25 octobre. Chers enfants, je suis avec vous. Et aujourd'hui, je me réjouis de ce que le Très-Haut m'ait fait le don d'être avec vous, de vous enseigner et de vous guider sur le chemin de la perfection. Un appel à la sainteté. Écoutez bien ce qu'elle dit sur les saints. Cette émission qui est souvent consacrée à des saints depuis 4 ans. Elle ajoute, « Petits enfants, je désire que vous soyez un merveilleux bouquet que je désire offrir à Dieu pour le jour de la Toussaint. » Ça date du 25 octobre, la Toussaint, c'est une semaine plus tard. « Je vous invite à vous ouvrir et à vivre en prenant les saints comme exemple. La Mère Église les a choisis afin qu'ils soient une stimulation pour votre vie quotidienne. » C'est simple. Mais tout est dit, là. C'est une vraie mère. Et à travers la Vierge, bien, les voyants s'immergent peu à peu dans un nouveau système de valeurs. Les voyants ont évolué. Une évolution spirituelle fantastique a ébloui l'abbé Laurentin et quantité d'observateurs qui y sont allés souvent. Il y a même une évolution psychologique. Ils sont devenus rapidement de jeunes adultes responsables, remplis de sagesse et de maturité. Ils acceptent de renoncer à une vie normale et à leur intimité pour partager très humblement, sans désir d'argent, les conseils de vie qui leur sont dispensés jour après jour. Marie a réussi à mener ce petit groupe en 2 ans et demi au début à un degré de spiritualité suffisant pour qu'il puisse servir de relais dans une nouvelle phase de son action, c'était l'étape communautaire, paroissiale de son projet. Ça a été une aventure extraordinaire qui ne cesse pas, qui continue toujours. Et comme je vous ai dit, ces jeunes, en bonne partie, sont mariés et ont des enfants. Il y en a qui ont essayé d'être religieuses ou religieux. Ça n'a pas marché. Ils se sont mariés. Le laïcat est appelé aussi à la sainteté. Les gens mariés sont appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à la sainteté que nous propose l'Église, que nous propose la Vierge Medjugorje, que nous enseigne l'Évangile, que nous enseigne les vies des saints, leur joie, leur bonheur, leur sérénité. On ne changera jamais le monde sans la présence d'un grand nombre de saints. J'ai pensé que vous aimeriez entendre beaucoup plus les messages de la Vierge que tout ce que je pourrais vous dire. Voici un beau message du début de l'année 99, le 25 janvier. Chers enfants, je vous invite à nouveau à la prière. Vous n'avez pas l'excuse de devoir travailler plus, car la nature dort encore d'un sommeil profond en hiver. Ouvrez-vous dans la prière, renouvelez la prière dans vos familles, mettez la Sainte Écriture, la Bible si vous voulez, mettez la Sainte Écriture dans un endroit visible dans vos familles. Lisez-la, méditez-la et apprenez comme Dieu aime son peuple. Son amour se manifeste aussi aujourd'hui car il m'envoie pour vous inviter sur le chemin du salut. Les gens qui disent que c'est répétitif, je ne suis pas si sûr. Je vous en lis un autre du mois suivant, 25 février 99. Chers enfants, aujourd'hui encore, je suis avec vous d'une manière spéciale contemplant et vivant dans mon cœur la passion de Jésus. Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans, les joies, les tristesses et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir à Jésus et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la joie de sa résurrection. Est-ce que c'est pas beau, ça? Et elle ajoute, Marie, c'est pourquoi je vous appelle maintenant d'une manière spéciale, petits enfants. Que vos cœurs soient ouverts à la prière, pour que par la prière, vous deveniez les amis de Jésus. Qu'est-ce qu'on attend à refuser d'entendre Marie? Le 25 mars, le mois suivant, chers enfants, je vous invite à la prière avec le cœur. La prière avec le cœur. D'une manière spéciale, petits enfants, je vous appelle à prier pour la conversion des pécheurs, de ceux qui transpercent mon cœur et le cœur de mon fils Jésus par le glaive de la haine et du blasphème quotidien. Prions, petits enfants, pour tous ceux qui ne désirent pas connaître l'amour de Dieu, même s'ils sont dans l'Église. Je répète. Prions, petits enfants, pour tous ceux qui ne désirent pas connaître l'amour de Dieu, même s'ils sont dans l'Église. Prions pour qu'ils se convertissent, afin que l'Église ressuscite dans l'amour. Et Marie ajoute, c'est si bon, ce n'est que par l'amour et la prière, petits enfants, que vous pouvez vivre ce temps qui vous est donné pour la conversion. Écoutez bien ça. Mettez Dieu à la première place. Ainsi, Jésus ressuscité deviendra votre ami. Et le mois suivant, le 25 avril 1999, chers amis, chers enfants, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière, aux petits-enfants. Soyez de joyeux porteurs de la paix et de l'amour dans ce monde sans paix. Par le jeûne et la prière, témoignez que vous êtes miens et que vous vivez mes messages. Priez et cherchez. Je prie. Et j'intercède pour vous devant Dieu. Que vous vous convertissiez, que votre vie et votre comportement soient toujours chrétiens. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est plein de ces beaux messages qui nous couvrent de bonheur et de joie à la pensée que Marie nous parle encore. Et pourquoi nous parlerait-elle pas? Qu'est-ce qu'on attend à être contre ça? Et c'est sanctionné par des miracles, comme des miracles récents, narrés par Sœur Emmanuelle de la Communauté des Béatitudes, qui a toujours un article dans l'Informateur catholique. Connaissez-vous ce journal, l'Informateur catholique, qui a publié il y a 2 ans un numéro spécial sur Medjugorje? Admirable! Je lis ceci. Parmi les guérisons accordées ces jours-ci, celle de Marilyn, 37 ans, m'a beaucoup touché. À la naissance de son premier enfant, de sérieux troubles auditifs apparaissent. À Paris, ses médecins l'invitent à ne plus avoir d'enfant car il risque alors la surdité totale. Or, 4 ans plus tard, Marilyn attend son 2e enfant et ses médecins font alors pression sur elle pour qu'elle avorte. Mais elle le résiste fermement, préférant devenir infirme plutôt que de tuer son enfant. Le petit Jean naît au printemps 97. Et effectivement, Marilyn devient sourde. Malgré un appareillage sophistiqué, elle n'entend presque plus rien et apprends à lire sur les lèvres, mais ne regrette pas un seul instant d'avoir mis au monde son petit Jean. À la fin de mars, elle vient à Medjugorje célébrer l'Annonciation, le 25 mars, et offrir son enfant à la Vierge. Pèlerinage d'intenses prières. Or, durant la messe de midi en français, car il y a des messes dans toutes les langues, elle est soudain gênée par le vacarme de l'orgue et dira à l'organiste qu'il a joué bien fort. Celui-ci répond qu'il a joué normalement. Et Mère Hélène entend clairement sa réponse. Oui, elle entend, elle n'est plus sourde. Depuis lors, elle a enlevé ses appareils, car son audition est parfaite. La Gospa l'a récompensée d'avoir choisi la vie de son enfant. En effet, le petit commence à parler et sa mère a maintenant ses deux oreilles pour l'entendre. Merci, Mère du Ressuscité. Tu nous arraches aux ténèbres d'aujourd'hui. Ouvre nos oreilles, Marie. Esprit Saint, viens en nous. Fais que nous sachions comprendre ces paroles admirables que prononce, semble-t-il bien, Marie à Medjugorje. Fais que nous en vivions. Que nous en vivions profondément et que nous sachions écouter ces paroles comme chers enfants. Aujourd'hui, je vous invite à vous rapprocher de mon cœur. Je vous invite à renouveler dans vos familles la ferveur des premiers jours, quand je vous ai appelé au jeûne, à la prière et à la conversion. Aux petits enfants, vous avez accepté mes messages avec un cœur ouvert, bien que vous ne saviez pas ce qu'était la prière. Et aujourd'hui, je vous invite à vous ouvrir complètement à moi pour que je puisse vous transformer et vous guider vers le cœur de mon Fils Jésus afin qu'il vous comble de son amour. Seulement ainsi, petits enfants, vous trouverez la vraie paix, la paix que seul Dieu vous donne. Oui, c'est quand Jésus nous comble de son amour. Il nous comble toujours de son amour, c'est à nous de faire en sorte de le recevoir et d'en vivre. Ô Marie, Marie, aide-nous à comprendre tes paroles. Gruge nos cœurs. Envoie-nous l'Esprit Saint que tu as reçu le jour de la Pentecôte. Ô Marie, merci.